Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Appelois. Bonjour Philippe Appelois.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Philippe Appelois, vous êtes graphiste, typographe, je ne sais pas trop comment vous définir. Certains disent de vous que vous êtes un chorégraphe des lettres. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste pour vous définir ?
Graphiste me semble bien parce que il regroupe tout ça. La typographie, la mise en page, la création de formes, d'affiches, de logos, de mise en page de livres. C'est un, je dirais presque chef d'orchestre au fond parce que graphiste aujourd'hui, c'est vraiment toucher à toutes sortes de supports, des supports imprimés aussi, des supports numériques. On est un peu tout azimut, quoi, sur tous les fronts, j'ai envie de dire, de ce qui concerne évidemment la communication visuelle.
Alors Philippe Appelois, vous avez publié un beau livre intitulé « Enfants de Paris » dans lequel vous avez photographié à Paris toutes les plaques commémoratives de la période 39-45. Vous avez cherché à nous donner à voir la beauté de ces plaques ?
Oui.
C'est ça ?
Pas seulement la beauté, bien sûr, en même temps leur histoire et l'emplacement où elles sont dans Paris, à savoir qu'il y en a dans tous les arrondissements. Donc c'est une sorte de livre dont les pages auraient été éparpillées partout sur les murs de Paris.
Philippe Appelois, vous avez choisi comme journée particulière le samedi 20 novembre 2004. Ce jour-là, votre mère faisait apposer une plaque commémorative dans le village de Château-Meillant pour remercier les habitants d'avoir caché ses parents et d'autres familles juives pendant l'occupation allemande.
Merci.
60 ans plus tard, ils reviennent ici remercier ces villageois qui les ont cachés et protégés pendant l'occupation. À Château-Meillant, 141 juifs pourchassés par le gouvernement de Vichy et par les nazis ont ainsi échappé à la déportation. Ida avait 3 ans à son arrivée en 1940.
Si je suis là, comme bien d'autres, c'est grâce à ces gens qu'on su se taire, parce que c'est quand même important, qui nous ont cachés, nous les enfants, qui ont donné du travail à nos parents.
Et ce monsieur-là, j'avais 8 ans avec lui, il était chez mes parents.
Ensemble, ces hommes, ces femmes qui ne s'étaient pas revus depuis la libération, revisitent leurs souvenirs d'enfance.
Ah, c'est un très grand
c'est
jour.
C'est un très grand jour parce que je rencontre des copains d'école.
Pour nous, c'est une grande époque parce qu'on partageait les jeux, on partageait tout. Quoi.
Et j'ai passé mon certificat d'études ici.
Dans une autre classe. Une quarantaine de familles juives, anciens réfugiés et leurs descendants ont ainsi exprimé leur gratitude éternelle aux dizaines de héros anonymes qui les ont sauvés.
Philippe Appelois, c'était un reportage qui a eu lieu exactement le 20 novembre 2004,
oui.
Le jour de votre journée particulière. Et c'est votre mère qu'on entendait au début de ce
tout
reportage, Ida.
Exactement.
C'est elle qui a tout organisé,
oui.
Qui a retrouvé ceux qui avaient été cachés dans ce village.
En effet. Après un long travail de recherche, d'acharnement, pour consulter les archives aussi, retrouver les gens qui étaient cachés. Il faut dire qu'elle avait gardé contact avec un certain nombre de gens aussi, qui étaient pour elle des amis d'enfance. Et puis, ce désir qu'elle a eu donc de laisser une trace de ce qui s'était passé là, à Château-Meillant. Et puis, ce jour du 20 novembre 2004, eh bien, c'était un jour très, très émouvant de la transmission, pour les générations plus jeunes. D'un passé qui continue à nous hanter aujourd'hui et qui, pour nous, sa famille, bien sûr, ses enfants, ses petits-enfants qui étaient là et puis tous les proches avaient une signification très très forte et vraiment particulière pour le coup.
Vous vous rappelez de cette journée ?
Et comment ? Oui, parce que il y avait quelque chose aussi de très beau. Je me souviens qu'il y avait des petites filles de Châteaumillan qui sont venues avec des bouquets de fleurs qui lui ont donné. Je me souviens qu'il y avait des drapeaux autour du monument aux morts en plein cœur du village. Et il y avait vraiment quelque chose de cérémonial. Et en même temps, il y avait aussi beaucoup de journalistes de la presse qui s'étaient déplacés parce que c'était quand même tout à fait singulier d'honorer non pas seulement une ou deux personnes parmi les justes, mais un village entier qui avait sauvé plusieurs juifs pendant l'occupation allemande.
Ouais. Alors Philippe Appelois, votre mère était une enfant, donc elle a été cachée dans ce village du Cher.
Oui, entre Bourges et Châteauroux, ils sont restés là pendant toute la période de l'occupation, donc de 39 à 45.
Alors vos grands-parents venaient de Pologne?
Absolument, d'une petite ville qui s'appelle Kazimierz-Dolny, du côté de ma mère, et qui se trouve donc au sud de Varsovie. Ils sont arrivés en 1930 à Paris.
Et se sont installés d'abord dans ce qu'on a appelé le Yiddishland, c'est ça?
Oui, le Yiddishland, c'était une forme de petite Pologne, ou en tous les cas de l'Europe de l'Est reconstituée, et entre autres dans le 11e arrondissement, où mon grand-père avait un atelier d'ébéniste, puisque c'était son métier, et il vivait là, j'ai envie de dire, tranquillement en tous les cas, dans un sentiment certainement d'apaisement après avoir fui évidemment les pogroms en Pologne et d'avoir trouvé l'espoir d'une nouvelle vie en France.
Alors c'est à quel moment que votre grand-père a décidé d'envoyer sa famille à Châteaumeillan pour les protéger?
Dès le début de la guerre, puisqu'il y a eu des associations notamment par quartier dans le 11e arrondissement de Paris qui ont permis aux Juifs de se mettre à l'abri, et lui avait une conscience très aiguisé de ce qui pouvait arriver. Il venait quand même de Pologne, il avait une idée, il était engagé politique aussi, notamment avec le Parti communiste, et il savait vraiment comment il fallait faire pour sauver sa peau. Donc il y a eu, par le biais d'associations, la possibilité à ces familles de se cacher, de se mettre à l'abri, et tout de suite il a envoyé donc sa femme, ma grand-mère, et ses deux enfants à Châteaumeillan avec d'autres familles juives. Oui.
Alors vous étiez évidemment là le 20 novembre 2004 quand votre mère a fait apposer cette plaque, Philippe Appelois, mais vous y étiez déjà allé dans ce village avec votre grand-père justement.
Oui, alors ça remonte vraiment dans les années 70, j'étais enfant et mon grand-père avait vraiment le souhait de me présenter aux gens qui l'avaient caché pendant la guerre, puisqu'ils sont restés en contact toute leur vie. Ça avait créé des liens vraiment particuliers en tous les cas. Ils étaient soudés pour la vie. Ils s'étaient entraidés. En tous les cas, c'est juste qui avait sauvé donc ces familles juives. Et mon grand-père est resté vraiment reconnaissant vis-à-vis d'eux. Donc, il y allait régulièrement et il m'a emmené chez eux. C'était des fermiers. Et donc, ils m'ont accueilli et j'étais là au milieu de gens qui ressassaient un peu à l'infini leur histoire de vieux combattants. Donc, je m'ennuyais un peu. Mais en même temps, j'étais stupéfait. Je me demandais globalement ce qui pouvait se passer. Mais il faut quand même préciser que dans notre famille, il n'a jamais été question de silence sur cette période, mais plutôt de débats, d'échanges et de transmission. Très jeune, j'ai su ce qui s'était passé. On n'a jamais été dans l'idée qu'il fallait ne rien nous dire. Au contraire, d'avoir une conscience très vive sur le danger que ça avait représenté et sur la chance d'être là.
Pourtant, quand votre mère décide de faire toutes ses recherches et décide de faire graver une plaque pour remercier les habitants de Châteaumeillan, elle ne vous en parle pas, elle ne vous demande pas de l'aider alors que c'est votre métier.
Certes,
comment vous expliquez ça? Pas de silence, mais en tout cas là...
Oui, peut-être c'était chacun son rayon, j'ai envie de dire. D'une certaine façon, elle était vraiment animée par le devoir de mémoire, l'idée de faire quelque chose, de laisser une trace. En même temps, c'était un véritable combat administratif qu'elle a mené avec mon père, au milieu des archives, des autorités locales, et de se faire entendre, respecter, et en même temps encourager, puisque je crois qu'elle a eu vraiment gain de cause. Mais je l'ai suivie dans son combat, dans son engagement. En revanche, c'est vrai qu'en tant que graphiste et passionné de typographie, je l'ai observé et je ne l'ai pas accompagné dans la réalisation de la plaque.
Alors comment elle est cette plaque?
Elle est en granit rouge foncé avec des lettres dorées et tout compte fait, dans sa sobriété, elle me séduit beaucoup, oui.
Quelles sont les 11 lignes qui sont écrites sur cette plaque ?
Je sais qu'il est question de remercier, de dire que les Juifs étaient menacés par le gouvernement de Vichy et que surtout, enfin je crois que c'est ça, justement on parlait de silence tout à l'heure, eh bien c'est grâce au silence et à l'action de la population que ces Juifs ont été sauvés. Mais c'est ce que ça raconte, voilà. Donc avec un sentiment de reconnaissance, et elle est datée aussi. Je trouve que c'est très important de dater les plaques, de savoir à quel moment elles ont été apposées. Parce qu'il y a quand même une histoire de la vie des plaques aussi.
Alors on va y revenir. Et elle est datée du 20 novembre 2004, bien
correct,
sûr.
Correct, bien sûr.
Alors en 2004, Philippe Apeloy, les Rita Mitsouko sortaient un album live.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant comme elle est en corps fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, caché montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste de la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épit à l'âme. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale est claire, accueillez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
Philippe Apeloy, un poème de Verlaine mis en musique par Léo Ferret, repris par les Rita Mitsouko, que vous aimez particulièrement.
Oui, parce que ça fait penser à, vraiment à l'après-guerre. On a l'impression d'une valse qu'on aurait pu entendre à la libération de Paris, où on imagine les gens danser dans la rue, retrouver une forme d'allégresse, de liberté, après tout ce qui était arrivé. Donc c'est une chanson touchante, joyeuse. Oui.
Alors le 20 novembre 2004, Philippe Apeloy, c'est votre journée particulière. Ce jour-là, donc, votre mère faisait apposer une plaque commémorative dans le village de Château-Meillan pour remercier les habitants du village d'avoir eu le courage de cacher les familles juives pendant l'occupation allemande. Et Philippe Apeloy, à défaut d'avoir été à l'origine de cette plaque, vous avez commencé à imaginer un autre type d'objet, pas une plaque, mais un objet imprimé qui vous permette de vous approprier l'histoire de vos grands-parents et de vos parents à travers votre passion, la typographie. Et la question, c'était comment convoquer l'histoire léguée par nos parents et en faire une création ?
Oui, oui, parce que en tant que graphiste, on travaille sur commande et moi, je me laisse guider par tout ce qu'on propose. Mais là, j'avais envie d'initier mon propre projet. Et autour des plaques commémoratives, c'était l'observation des traces de la guerre qui nous accompagne, en tous les cas dans la ville de Paris, là où j'habite, où je suis né, où je travaille, donc qui est ma ville. Alors j'ai commencé à me rendre compte qu'il y en avait un certain nombre et qu'elles étaient toutes différentes et qu'il y avait une diversité extraordinaire de ces plaques. Donc elles étaient à la fois très très belles parce que c'était le résultat de travaux d'artisans et qu'elles racontaient des histoires souvent tragiques et mis bout à bout, ça constituait un récit. Et comme ça, petit à petit, j'ai constitué un livre qui est un véritable millefeuille, hein, puisqu'il fait plus de 1000 pages. C'est un pavé et c'est un monument de papier qui les regroupe toutes par arrondissement.
Alors, vous avez été inspiré, Philippe Appelois, dans votre travail de création par un mémorial américain,
oui,
dédié aux soldats morts pendant la guerre du Vietnam, et conçu par Mayaline en 1982.
À 6 heures ce matin, le caporal Lenwood Link était le premier. Le premier des vétérans américains de la guerre du Vietnam à venir se recueillir devant le monument érigé à la mémoire des soldats tués au combat. Des hommes qui étaient ses amis.
Là, c'était les gars de mon équipe. Et dès que je reviens ici, je me revois transportant leur corps dans l'hélicoptère. C'est tout ce que je revois.
Sur ces dalles noires, en partie enfouies dans la terre, lieu de mémoire pour ceux qui en sont revenus.
Ce mur, c'est un peu une partie de notre cœur, une partie de notre âme.
Moi, ça me suffit d'être ici, sans cérémonie officielle, simplement être là pour leur dire que je pense à eux. Le mémorial du Vietnam est aujourd'hui le site le plus visité de la capitale américaine.
Philippe Appelois, pour vous, ce mur de Wall est une référence. À quoi ressemble ce monument pour ceux qui ne connaissent pas ?
C'est une entaille gigantesque dans la terre, comme si on avait enfoncé un mur en forme de chevron dans la terre. Et le terrain est en pente, si bien que les visiteurs suivent l'inclinaison du terrain, touchent les parois du mur, les regardent, et sur ces parois sont gravés les noms de... Il y a une cinquantaine de milliers de victimes de la guerre donc du Vietnam. Ça s'appelle The Wall. Et c'est vrai que j'avais été très très surpris par la qualité de ce monument aux morts qui se distingue de tous les autres, parce que soudain, c'était vraiment une œuvre de land art, une œuvre conceptuelle et qui allait bien au-delà de la tradition des monuments aux morts. Il a été réalisé par Mayaline, elle avait 20 ans, elle était étudiante à l'université de Yale et elle a gagné ce concours national aux États-Unis contre des agences d'architecture bien plus établies. Et en cela, elle est devenue une héroïne pour tous les étudiants américains qui rêvent d'avoir ce même parcours, d'avoir cette même chance. C'est une œuvre magnifique.
Et il y a une autre œuvre, enfin il y a autre chose, parce que ce n'était pas une œuvre, Philippe Appelois. Vous avez été aussi influencé parce que vous avez vu à New York juste après le 11 septembre, parce oui, que vous y étiez dans les jours qui ont suivi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'après l'attentat, eh bien, les gens avaient collé partout dans la ville des papiers accompagnés du mot « missing » et du nom de la personne qui avait disparu pendant l'attentat. Et ces papiers collés sur les murs étaient aussi une forme de trace de la mémoire, mais une forme tout à fait éphémère. Vous voyez, de ces papiers qui se déchiraient, qui étaient bien sûr altérés par la pluie, par... Bon, les gens aussi qui les arrachaient, etc. Mais c'était fait main, il y avait quelque chose et en même temps une accumulation comme ça de noms qui étaient affichés.
Alors c'est Philippe Appelois, c'est inspiré par tout ce que vous aviez vu aux États-Unis qu'est née l'idée de votre livre.
Absolument.
De votre pavé, oui, monument de papier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce livre avec ses plaques ne se limite pas à l'histoire de votre famille ?
Certainement pas. Ce sont toutes les plaques que l'on trouve dans Paris. Et il y en a plus d'un millier. Et d'ailleurs, la difficulté était d'être exhaustif, de n'en rater aucune. Et c'était une véritable chasse au trésor, parce que j'ai réalisé ce livre en cherchant d'abord les plaques. Et ça a été une véritable travail d'enquête que j'ai mené avec une équipe de jeunes designers sortis des écoles d'art. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était bien entendu le regard sur les lettres gravées dans la pierre, dans le métal ou dans le bois. Il y a toutes sortes de supports et on avait une passion. Enfin, moi, j'ai transmis cette passion, ce regard, parce que l'idée de ce livre, c'est vraiment d'ouvrir le regard sur ces traces qui passent pour inaperçues.
Samy Fray lit Dora Bruder de Patrick Modiano.
Il y a 8 ans, dans un Paris soir qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé sur une rubrique d'hier à aujourd'hui, au bas de laquelle j'ai lu « On recherche une jeune fille ». Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pull vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris.
C'était une archivina de 2011, c'était donc le tout début de Dora Bruder de Patrick Modiano. Hanté par cette annonce, Patrick Modiano a cherché à retrouver les traces de la vie de cette jeune fille. Vous, Philippe Apelois, vous avez été comme obsédé, vous aussi, pris par une obsession de trouver toutes ces plaques dans Paris.
Oui.
Parce que vous y entendez comme un murmure, un chuchotement.
Oui, chuchotement. En tous les cas, ce sont des signes de vie de gens qui sont devenus comme des fantômes et qui nous accompagnent dans notre présent jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant on est quand même la deuxième décennie du 21e siècle et on se rend compte en fait que ces traces du siècle précédent eh bien, continuent de nous accompagner et nous frappent, je crois, comme si on ne pouvait pas s'en séparer. Peut-être parce qu'elles sont encore incandescentes, il y a quelque chose de brûlant dans tout ce que ça raconte.
Sur ces plaques, on peut lire des noms de femmes, d'hommes, de résistants, de juifs, de gendarmes, de travailleurs de la RATP, de justes, d'aviateurs, de gens connus aussi,
oui.
Charlotte Delbault.
Bien sûr, d'intellectuels, d'artistes, de beaucoup d'enfants aussi, et de très jeunes. Je crois que ce qui est surprenant, c'est de voir, notamment au moment de la libération de Paris, le nombre de jeunes gens qui ont perdu la vie à entre 15 et 20 ans, 15, 20, 22 ans. Et c'est tout à fait troublant de réaliser que si jeunes, ils avaient pris les armes pour combattre et pour la liberté. Et ça, c'est assez poignant de voir justement que leur nom soit associé à des gens célèbres. Mais c'est souvent le nom des anonymes. C'est ça aussi qui fait la singularité de ces plaques. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des célébrités. Bien sûr, il y a des plaques qui honorent les actes de bravoure de Vercors ou alors Robert Desnos, Edith Thomas, entre autres. D'autres personnes, bien sûr, du monde politique et de la résistance, Jean Moulin, Pierre Brossolette, Jean Zay, etc. Donc, il y a effectivement des noms célèbres, et puis beaucoup qui ne l'étaient pas, femmes ou hommes engagés dans la résistance et qui ont combattu l'occupation.
Alors, si vous deviez en choisir 2-3 plaques, lesquelles choisiriez-vous ? Celles auxquels vous êtes particulièrement attaché, Philippe Apelois?
Il y en a plusieurs pour différentes raisons. Déjà, il y en a certaines qui me plaisent par la beauté et leur singularité. Par exemple, il y a une seule plaque de forme ronde qui se trouve rue Saint-Honoré, en face d'ailleurs du ministère de la Culture, qui est en anglais avec un très beau lettrage de style un peu art déco, doré, et qui rend hommage à des aviateurs qui se sont écrasés sur les magasins du Louvre. Voilà une plaque tout à fait étonnante par sa beauté et en même temps ce qu'elle raconte, bien sûr. Et puis il y a des plaques qui parlent de destin inoubliable, j'ai envie de dire, et je pense à celle de Virginie Olivier, qui s'appelait Charlotte, c'était son nom de résistante, et elle est située dans un musée, le musée de l'hôpital Sainte-Anne. Elle était donc infirmière. Cette plaque est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est ornée d'un très grand portrait, elle ressemble presque à une carte d'identité, et c'est une des rares plaques sur lesquelles il y a la photo de la personne. Donc on la voit avec sa coiffe d'infirmière, il y a même un petit drapeau sur son épaule, et elle a été déportée. Et aussi, ce qui m'intéresse sur cette plaque, vous voyez, je parlais tout à l'heure du travail d'enquête, c'est que nous avons mené avec mon équipe une véritable enquête, mais très très détaillé comme ça à travers les archives en posant des questions à droite à gauche aux personnes pour essayer de retrouver la trace de plaques qui étaient perdues dont on savait qu'elles existaient et c'était le cas de cette plaque. On savait que la plaque avait été apposée quelque part mais elle était rangée en attendant d'y être de nouveau remise sur les murs parce qu'il y a des plaques qui disparaissent. D'autres qui sont posées. Il y a toujours une historique, en fait, de ces plaques. Et c'était particulièrement troublant pour celle-ci. Mais il y a des plaques, évidemment, qui m'intéressent pour ce qu'elles racontent aussi.
Alors, comme celle-là, qui est au jardin Villemain.
Dans le dixième, oui.
Dans le dixième, de 1941 à 1944, les autorités de Vichy, aux ordres de l'occupant nazi, ont édicté des ordonnances particulièrement discriminatoires, dont celle interdisant l'accès dans les parcs publics, les squares et les espaces de jeu aux chiens et aux juifs. Plus de 700 enfants juifs déportés, dont 75 tout petits, les plus jeunes n'ayant que 15 jours, demeuraient dans le 10e arrondissement. Ces enfants n'ont pas eu la joie de jouer dans les jardins publics. Tous furent arrachés à leur maman et déportés. Ils périrent assassinés dans les camps d'extermination. Afin de pérenniser leur mémoire, une stèle érigée dans ce square leur est dédiée. Ne les oublions jamais.
Bien sûr, ça, on ne peut pas oublier, c'est tragique.
Tragique.
Émouvant. Oui, je crois que ça tire les larmes, évidemment, quand on entend ça, quand on le lit. Et justement, le livre est comme une forme de guide aussi dans Paris. C'est-à-dire que d'une rue vers une autre, d'un arrondissement vers un autre, on se rend compte qu'il y a eu là des moments de tragédie, d'inquiétude, d'injustice. Et je crois qu'il faut absolument prendre le temps de les lire et d'être mis en arrêt devant ces plaques. Et je crois que le livre, en tous les cas, qui a été conçu, fait partie de cet objectif-là. D'un seul coup, de se rendre compte de ces petits éclats comme ça de mémoire qui sont à notre portée. Parfois, on passe devant sans s'en rendre compte. Et justement, l'idée de les réunir, c'est à la fois une invitation à les lire, mais aussi à les observer pour la façon dont elles ont été conçues et aussi où elles ont été scellées, puisqu'il n'y a pas vraiment de support au préalable. Elles sont mises des fois dans près des entrées des immeubles ou alors on a coupé des moulures pour pouvoir les incruster. Donc elles deviennent, elles se fondent dans la pierre des murs. Elles deviennent comme des pansements, j'ai envie de dire. Vous voyez, comme si elles soignaient des plaies aujourd'hui.
Alors, j'aimerais en lire plusieurs. Celle-ci. Ici a logé de 1940 à 1950 le poète Paul Éluard. Et derrière, juste en dessous, tu vas te libérer Paris, Paris tremblant comme une étoile.
Et oui, c'est très très beau l'idée de l'étoile qui nous guide. Il faut savoir que c'est une plaque récente qui vient d'être posée dans le 19e. Donc il y a encore des plaques qui sont posées et qui sont décidées par le Conseil de Paris ou alors par des initiatives personnelles. Vous voyez, il y a d'autres poètes, je pense à Benjamin Fondane aussi. Il y a une très très belle plaque avec un texte de lui dans le 5e arrondissement. Et voilà quelqu'un qui venait d'ailleurs, et il venait de Roumanie, qui est arrivé à Paris, qui a laissé sa trace. Il y a une très très belle plaque aussi d'un poète hongrois, qui s'appelle Miklós Radnóczy, rue Cujas, dans le 5e arrondissement aussi. C'est une d'ailleurs des plus belle plaque que l'on trouve à Paris. Elle est faite en céramique comme une majolique et il y a son portrait en relief sur la plaque avec un lettrage tout à fait original. Et c'est ce lettrage aussi qui m'intéresse, car je me permets de revenir sur cette obsession que j'ai du regard des lettres, parce que on lit les lettres, on lit ces textes, mais on ne prend pas forcément attention à la forme des lettres. Et c'est ça qui passe comme invisible. Et c'est ce que moi je regarde.
Et c'est de ça dont on va parler, Philippe Papelois,
avec
après
plaisir.
Cette musique-là. Oh, Les armes à la main, le 5 février 1942, Suzanne Masson, héroïne de la Résistance, déportée, elle refusa de travailler pour la machine de guerre nazie. Devant le tribunal fasciste, elle a déclaré qu'elle n'avait fait que son devoir de patriote. Décapitée à la hache à Hambourg le 1er novembre 1943, tombée pour l'indépendance nationale. Sur une musique de Noémie Weisfeld, Philippe Appelois, que vous adorez.
Ah, j'admire sa voix, je la trouve très fraîche et en même temps poignante et profonde. Et surtout, ce qui m'intéresse dans le travail de Noémie Weisfeld, c'est qu'elle associe le yiddish à d'autres langues. Je pense ce qu'elle a fait autour du fado, entre autres, et en même temps avec une orchestration très moderne, jazzy, elle donne une nouveauté à ses chansons yiddish et c'est tout à fait prodigieux et très émouvant de l'écouter, bien sûr.
Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière du graphiste Philippe Appelois. Philippe Appelois, ces plaques commémoratives que nous remarquons à peine ont pour vous, vous le disiez tout à l'heure, une véritable qualité esthétique. Vous y voyez une grande richesse de vocabulaire graphique, lettres peintes, lettres en creux, dorées. Ces plaques sont à vos yeux un catalogue fantasque de création typographique, un véritable hommage aux dessinateurs de lettres.
Michel Ducognon veut être typographe. Un jour, il sera élève de l'école Estienne à Paris. Un jour, Michel sera un vrai typographe. Michel a compris que le typographe n'est pas seulement utile, mais que c'est un artiste. Plus tard, il s'essaiera, comme un peintre assemble des couleurs, à réaliser des assemblages de caractères curieux, harmonieux. De même que deux acteurs ne prononce pas la même phrase de la même manière, le typographe saura donner comme une intonation rare aux mots qu'il compose. On ne prononce pas le mot amour comme le mot acier. On ne les écrit pas non plus de la même manière. C'est ce que M. Garcia enseigne à ses élèves. Michel apprendra aussi à faire parler les lettres, à donner à chaque mot sa physionomie. Un jour, Michel parlera aux hommes avec ses petits signes noirs grâce auxquels les gens peuvent se comprendre d'un bout du monde à l'autre, grâce auxquels les morts même continuent de parler aux vivants.
Philippe Appelois, c'était une archive de 1962. Les morts continuent de parler aux vivants grâce aux lettres que nous traçons. C'est exactement votre... ce que vous faites.
C'est ce que j'essaye de faire, oui. Et c'est vrai que j'ai la même passion pour les lettres. Les lettres, c'est vraiment l'art du plein et du vide, de l'ombre et de la lumière.
Du silence.
Oui, du silence. En même temps, c'est vraiment l'art du dessin. J'ai envie de dire, il y a une telle géométrie dans les lettres et en même temps beaucoup de sensualité dans leur dessin, de variété. C'est vrai que l'alphabet latin compte un nombre de lettres. Limité, mais leur style, leur forme, leur combinaison sont infinies. Et en cela, on a l'impression d'avoir une palette entre les mains et de pouvoir créer toutes les couleurs. Et ce que j'aime, moi, dans la typographie, c'est quand elle est créative, expressive, et quand elle devient extrêmement vivante, voire, j'ai envie de dire, lorsqu'on flirte avec l'illisibilité, la difficulté peut-être à décrypter pour se rendre compte qu'il existe des formes originales, voire excentriques de la typographie, tout en ayant en même temps ce souci de la fluidité de la lecture. Et c'est inviter le lecteur à se rendre compte que les lettres ont quelque chose de spectaculaire au fond, parce qu'elles passent effectivement comme invisibles, on les décrypte sans les regarder, mais en même temps je crois que tout le monde est très sensible, et notamment dans l'espace urbain, à des affiches, à des enseignes, à des signes de la signalétique qui nous permettent de nous orienter. Et pour revenir aux plaques, elles font partie aussi de l'espace urbain, mais elles n'orientent rien du tout, elles donnent des informations, et elles sont tellement belles pour les plus anciennes, quelles sont des sources d'inspiration formidables pour les graphistes d'aujourd'hui.
Mais Philippe Appelois, chaque lettre raconte une histoire ?
En tous les cas, je crois que chaque lettre a une personnalité. Et elles me font penser à des acteurs ou des danseurs sur une scène, lorsqu'on les met en page. Il est certain que la lettre I, par exemple, est beaucoup plus étroite que la lettre M. Alors on peut imaginer des personnages avec différentes silhouettes. Et puis après, il y a des lettres en italique, des lettres avec des empattements, des lettres capitales, des lettres dites grasses, d'autres maigres.
C'est drôle, donc, quand vous dites empattement, tout de suite on la voit tomber, la lettre, on la voit être lourde.
Oui, en tous les cas, ou alors bien posée comme si elle avait effectivement un socle. Et enfin, les lettres sont... Enfin, il y a vraiment un vocabulaire typographique et d'une telle richesse et infinie. On a tous une expérience, pour ceux qui ont la chance de voyager dans des pays où on ne maîtrise plus la lecture de l'alphabet, de remarquer la beauté des lettres. Et dès qu'on est dans des pays asiatiques, par exemple, alors on est confronté à des systèmes d'écriture qui nous échappent complètement. Et on se dit, ah, mais ils ont de la chance d'avoir des lettres si belles. Mais en fait, l'alphabet latin aussi, très très beau. Et il y a effectivement tellement de possibilités de variation. En cela, ça me fait aussi beaucoup penser à la musique.
Philippe Appelois, vous le disiez au début de cette émission, vous êtes au service de la lettre et vous dirigez les mots et les lettres parfois comme un chef d'orchestre.
Oui, ou alors comme un metteur en scène. J'écoute là cette musique de West Side Story, de ce film emblématique qui a réuni tant de talents et de modernité. Et je pense entre autres aussi à West Side Story, à son générique qui est signé par Saul Bass, un des plus grands graphistes américains, qui a réalisé aussi tous les génériques des films d'Hitchcock. Et là, entre la musique, la chorégraphie, la beauté des acteurs, les couleurs et l'histoire, ce que ça raconte, je crois qu'il y a quand même... Et je trouve que ce film est emblématique. En tous les cas, je l'ai vu jeune, je l'ai revu plusieurs fois, et je ne me lasse pas de cette musique et de la chorégraphie. Si j'avais pu, j'aurais adoré pouvoir y participer, pourquoi pas.
Danser ? Parce que vous auriez aimé danser.
C'est irrésistible, déjà par la musique, la chorégraphie. Et puis en même temps, Poesia Story, c'est aussi New York. Cette ville qui est d'une certaine façon ma ville d'adoption, où j'ai tant puisé d'aspiration, où j'ai toujours eu le sentiment d'être confronté au nouveau monde.
Philippe Appelois, dans votre façon de travailler les lettres, le mouvement justement est très important, très inspiré par la danse, par le ballet, alors de West Side Story à Pina Bausch, que vous aimez aussi beaucoup, mais vous essayez de donner du mouvement, et d'ailleurs quand on regarde vos affiches, elles dansent.
J'essaye en tous les cas, déjà les affiches, moi j'essaye de les concevoir comme si elles étaient des peintures. Et c'est vrai que la typographie par essence est quelque chose qui est immobile, mais d'arriver à insuffler l'idée d'un mouvement dans les lettres, ou alors une sorte de mise en arrêt sur une situation tout à fait exceptionnel, c'est vraiment donner une force à l'affiche et de captiver le regard, puisque une affiche c'est vraiment un coup de poing visuel, c'est très éphémère une affiche, on la regarde et puis aussitôt après elle disparaît, mais elle peut s'inscrire dans la mémoire visuelle, d'ailleurs c'est le but, c'est qu'elle puisse s'inscrire dans la mémoire visuelle. Donc l'idée d'insuffler le mouvement dans les lettres, c'est vrai que ça a été peut-être pour moi, et ça l'est encore, une façon de concilier tous les autres formes artistiques qui m'inspirent, à commencer par les arts du spectacle et bien sûr la chorégraphie. Les chorégraphes américains, je pense à Merce Cunningham, Nicolais, Martha Graham et l'œuvre exceptionnelle de Pina Bausch, dont j'ai eu la chance, je fais partie de cette génération qui a grandi artistiquement parlant en suivant année après année ces magnifiques spectacles qui étaient donnés au Théâtre de la Ville.
Alors vous parlez de coup de poing dans le regard, Philippe Appelois, et je voudrais qu'on revienne sur votre nom de famille. Parce que Appelois, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est un nom donc d'origine des pays de l'Est, certainement, de racine yiddish. Appel, c'est la pomme, c'est très proche de l'allemand, et Oig, c'est l'œil, donc Appelois, c'est la pomme de l'œil, la pupille, c'est vraiment au cœur du regard de l'œil. Mais par ailleurs, c'est un nom qui commence par la première lettre de l'alphabet et qui se termine par la lettre G, qui est la première lettre du mot graphisme. Donc je trouve qu'il y a comme ça un raccourci entre mon identité, j'ai envie de dire, et ma profession.
En tout cas, vous y voyez du sens.
J'essaie toujours de cultiver le hasard, très curieusement. C'est-à-dire que le hasard est pour moi une source d'inspiration. Je me laisse entraîner par des situations que je n'imaginais pas, et je regarde par exemple ce que les lettres me racontent, et j'y trouve toujours des solutions, des pistes, et je pense qu'il y a une sorte de message à travers les lettres et à travers les mots, comment les lettres sont associées les unes derrière les autres, le nombre de lettres qu'il y a dans un mot, les répétitions ou alors la signification des lettres, comme je viens de le dire pour mon propre nom.
Dans votre rapport à l'image, Philippe Appelois, il y a des personnes évidemment qui ont été déterminantes. Il y a Pablo Picasso, que vous avez découvert quand vous étiez tout jeune. Le génie de Picasso, c'est d'avoir eu l'audace de tout bouleverser. Plus tard, vous allez découvrir Malevitch, et là, ce sera une véritable révélation, enfin une révélation.
Jamais vous ne verrez sur mon carré le sourire d'une mignonne psyché. Le carré est un nouveau-né vivant et majestueux, le premier pas de la création pure dans l'art.
Plus de 60 ans après, on se demande encore si le carré noir sur fond blanc signifie le début de l'art ou la mort de la peinture.
Je crois qu'il faut regarder ce tableau très longtemps, jusqu'au point où on pense que quelque chose ne va pas dans la télévision. C'est un objet presque de méditation. Dans l'exposition où il a montré pour la première fois, il a mis au coin, comme on montre les icônes à la maison en Russie. Pour lui, c'est une image, mais c'est une image de rien. Et ce qu'il a reconnu, je crois, en faisant ce tableau, c'est qu'on a des états d'âme hors description, hors le monde des objets, la sensation matérielle.
C'est une archivina de 1979. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Philippe Appelois ?
Je voulais dire que l'œuvre de Casimir Malevitch nous implique dans l'espace. Soudain, l'espace compte. C'est-à-dire l'espace là où on accroche les œuvres, et il le dit bien que le carré noir a été positionné dans l'angle d'une pièce en hauteur, comme l'étaient les icônes russes dans les églises. Donc il y a l'idée d'une référence par rapport à la méditation autour de l'œuvre peinte, d'une icône. Quand j'ai découvert Malevitch lors de ma formation Amsterdam au début des années 80. J'ai découvert son œuvre au Stedelijk Museum qui possède une très belle collection de peintures, de dessins, de gravures. C'est comme si j'avais eu rendez-vous avec l'abstraction. C'était une sorte d'évidence. Ça me parlait peut-être plus que des peintures d'aspect plus réaliste. Il y avait vraiment une notion de l'espace, du mouvement à l'intérieur même d'une surface peinte, comme si ces formes géométriques pouvaient devenir des personnes, des personnages. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie, en créant ces silhouettes très stylisées. Non, c'est une œuvre fondamentale, bien sûr.
Est-ce que les plaques commémoratives sont pour vous comme des tableaux abstraits?
Ah, certainement. Certainement, ce sont des tableaux populaire, en tous les cas pour les plus belles d'entre elles. Je ne parle pas d'ailleurs des récentes qui sont faites de façon tout à fait mécanique et qui ont perdu toute leur âme. D'ailleurs, souvent elles sont beaucoup plus bavardes et je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir un discours si long. Parfois, il y a des plaques où il y a marqué « Ici, un Français est mort pour la libération, il avait 20 ans » et c'est beaucoup plus poignant que d'avoir des discours très longs. Mais du fait qu'elles soient apposées un peu au hasard, pas au hasard en tous les cas, dans des endroits où elles n'avaient pas été prévues. Donc il y a encore une fois comme s'il était question de l'accrochage d'une œuvre dans un espace, et là c'est l'espace urbain. Et comme je vous le disais, ce sont des signes qui ne sont pas des signes utilitaires de la signalétique, mais des signes de mémoire.
Zoé Varié sur France Inter.
De la musique brésilienne en plein cœur de la mémoire de Paris, c'est parce que vous adorez cette musique, Philippe Apelois, qu'on l'a choisie pour vous. Et c'était Gal Costa avec Amarante.
Merci, parce que ce sont toutes les couleurs d'un ailleurs qui viennent nous réchauffer. Et en même temps, on pense à l'actualité au Brésil aujourd'hui.
20 novembre 2004, c'est votre journée particulière, Philippe Apelois. Et alors, c'est toujours un moment peut-être un peu particulier dans l'émission pour nous inviter. On va parler du Hit Parade et en 2004, au Hit Parade, il y avait ça. Baby, can't you see I'm calling, a guy like you should wear a watch.
c'est la boîte de nuit.
Ouais, mais vous avez dansé là-dessus, vous dansez là-dessus.
Alors sur cette musique peut-être pas, mais sur d'autres oui certainement. En tous les cas, c'est une improvisation tout de suite inattendue. Oui, ça me fait beaucoup. En tous les cas, ça me replonge dans une époque que je m'attendais pas à ça. Mais voilà, ça fait partie des sons qu'on a certainement entendus peut-être sans se sentir prêter attention.
Vous pourriez dessiner sur cette musique.
Peut-être, je ne sais pas.
Pas sûr.
Non.
C'est Britney Spears quand même.
Oui, alors moi je préfère la musique brésilienne. Désolé d'être si radical, mais je préfère la voix de Gal Costa. C'est plus mon monde.
Je comprends. Alors Philippe Appelois, vous êtes gâté parce que vous allez avoir deux cadeaux pour finir cette émission. C'est Roger Druet qui vous a initié à la typographie. Il a été votre professeur et son livre La civilisation de l'écriture a été préfacé par Roland Barthes. Et je vous propose d'écouter le début de cette préface.
Je me suis souvent demandé pourquoi j'aimais écrire, manuellement s'entend, au point que dans bien des occasions, l'effort souvent ingrat du travail intellectuel est racheté à mes yeux par le plaisir d'avoir devant moi, telle la table du bricoleur, une belle feuille de papier et une bonne plume, tout en réfléchissant à ce que je dois écrire. C'est ce qui se passe en ce moment même. Je sens ma main agir, tourner, lier, plonger, se lever, et bien souvent par le jeu des corrections, raturer ou faire éclater la ligne, agrandir l'espace jusqu'à la marge, construisant ainsi à partir de traits menus et apparemment fonctionnels, les lettres, un espace qui tout simplement celui de l'art, je suis artiste, non en ce que je figure un objet, mais plus fondamentalement, parce que dans l'écriture, mon corps jouit de tracer, d'inciser rythmiquement une surface vierge, le vierge étant l'infiniment possible.
Magnifique.
Magnifique, c'est la main qui danse, la main du calligraphe. Et j'ai eu effectivement cette chance d'avoir été initié à la typographie par le très talentueux Roger Druet, éminent calligraphe.
La main qui danse.
Absolument. Oui, parce qu'il y a un mouvement qui entraîne, j'ai envie de dire, le bras, le corps. Je crois d'ailleurs les calligraphes ont une gestuelle tout à fait particulière de leur corps lorsqu'ils sont face à leurs feuilles de papier et leurs outils, le calam, la plume, le pinceau.
Ele fez o sol levantar.
Puxa, igualzinho ao Orfeu.
Agora você é Orfeu.
Não.
Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
Philippe Appelois, c'est la musique du film Orfeo Negro, la fin du film.
Oui, ces enfants qui dansent dans les hauteurs de Rio, au-dessus de la misère des favelas et qui font se lever le soleil. C'est une forme de résilience. Ils ont appris par la musique et par la danse à ramener la lumière et l'espoir.
Cette chanson pour vous, c'est le triomphe de la vie et c'est aussi le sens de votre travail. C'est que même s'il vous a fallu du temps pour vous approprier votre histoire, celle de vos grands-parents et de vos parents pour la faire vôtre, à chaque fois que votre mère vous raconte encore et encore Château-Meillan, son enfance d'enfant caché, vous y voyez-vous le triomphe de la vie?
Oui, de la beauté aussi, certainement.
Et c'est comme ça que je voulais terminer cette émission.
Je vous en remercie, Zoé.
Merci Philippe Appelois d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aussi à Marie Descourtieux, grâce à laquelle je vous ai rencontré. Votre livre, votre pavé Enfant de Paris, est publié aux éditions Gallimard. Normalement, votre travail, ce travail sera projeté sur les murs du Panthéon en septembre.
Oui, le 16, 17 et 18 septembre, un peu en avant-première des Journées européennes du patrimoine. Et le public pourra voir donc ces images des plaques commémoratives en taille monumentale sur les murs extérieurs du Panthéon. C'est un événement en plein air et accessible pour tout le monde, puisque j'ai envie de faire partager avec bien les Parisiens, les touristes, ce regard que j'ai porté sur les plaques commémoratives parisienne de la période 39-45.
Merci Philippe Appelois, c'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard, à la technique aujourd'hui, c'était Michel Bézikian. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.